savons ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée. Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Barthas sur le 107 de la bande FM et sur radiobarthas.net. Il est très exactement midi et des poussières et aujourd'hui dans cette émission, on va parler de cinéma avec la soirée Court-Circuit organisée le 20 février par la Nouvelle Dimension à Florac. On va aussi parler d'orthographe avec la Grande Dictée de Balsiège. Il y aura aussi de la musique avec Bad Bunny et avec la Minute de Max. Mais avant ça, je voulais vous partager un événement, l'événement du jour. C'est une conférence proposée donc aujourd'hui à Mende par la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Lozère pour raconter l'épopée du lac de Naussac. À la fin des années 70, le projet de construction d'un barrage sur un affluent de l'Allier avait suscité une très forte opposition, de nombreux manifestants refusant de voir le village de Naussac englouti sous les eaux. Le barrage sera finalement construit en 1980 et un lac recouvre désormais le village. André Bonnefille, qui a écrit un ouvrage sur le sujet, vous racontera cette histoire à 18h à la salle Henri Rivière à Mende. Et un peu plus au sud, dans l'Hérault, au bord du Salagou, un autre village avait été menacé lui aussi d'engloutissement suite à la construction d'un barrage dans les années 60. C'est le village de Selles. Ce village, lui aussi, vit sa propre épopée que vous pouvez découvrir dans un article du Média Reporter qui est paru le 8 février et qui est en accès libre sur leur site internet. Plus de 50 ans après son abandon forcé, le village de Selles est en train de renaître avec un principe original en France. Aucun des habitants n'est propriétaire ni locataire et ils pourront y habiter gratuitement. Voilà, de l'Atlantide à Naussac en passant par Selles, la montée des eaux génère bien des mythes, des histoires et des surprises. Et vu la pluie qui tombe encore et toujours ici à Florac, on ferait peut-être bien de s'en inspirer pour anticiper un peu notre prochaine potentielle submersion sous les eaux, notre prochaine potentiel engloutissement.
Il pleut, c'est tout ce qu'il sait faire. Je bouge, c'est tout ce que je sais faire. La nuit descend, c'est tout ce qu'elle sait faire. Le vent souffle, c'est tout ce qu'il sait faire. Il neige, c'est tout ce qu'il sait faire. J'ai peur, c'est tout ce que je sais faire. Les enfants naissent, c'est tout ce qu'ils savent faire. La terre tourne, c'est tout ce qu'elle sait faire. Il gèle, c'est tout ce qu'il sait faire. Je pleure, c'est tout ce que je sais faire. La guerre éclate, c'est tout ce qu'elle sait faire. Les bombes hachent, c'est tout ce qu'elle sait faire. Il tonne, c'est tout ce qu'il sait faire. Je crie, c'est tout ce que je sais faire. Les mots sont froids, c'est tout ce qu'ils savent faire. C'est dommage, c'est tout ce que ça peut faire.
C'était Brigitte Fontaine à l'instant sur Radio Bartas. Il pleut, c'est à la fois une triste réalité et le titre de ce morceau paru en 1968.
Midi et des poussières.
Vous allez bientôt voir tourner sur les réseaux sociaux de la Nouvelle Dimension une vidéo teaser vraiment chouette concoctée par Julien Tos et Camille Zabalza, un teaser pour annoncer la célèbre soirée circuit court organisée par la Nouvelle Dimension. Je ne vous en dis pas plus sur la vidéo pour ne pas divulgâcher comme on dit en bon québécois, mais par contre, on peut vous en dire un peu plus sur la soirée elle-même qui aura lieu le 20 février et qui de mieux placé que Guillaume Sapin, directeur de la Nouvelle Dimension, pour nous en parler. Interview enregistrée hier après-midi. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
On est là dans le vidéoclub de la Nouvelle Dimension pour que tu nous annonces une soirée qui arrive très bientôt. C'est votre soirée circuit court. Et cette année, c'est un peu spécial parce que c'est pour les 11 ans aussi de l'association ou c'est chaque année pour votre anniversaire ?
Non, c'est chaque année. En fait, la première soirée circuit court, on l'a fait pour le premier anniversaire. C'est l'anniversaire qui correspond à la réouverture du vidéoclub, qui avait fermé juste 2 mois. Mais en tout cas, la Nouvelle Dimension a repris en main le vidéoclub dans lequel nous sommes le 7 février 2015. Et donc, chaque année, cette soirée correspond à peu près au premier vendredi des vacances d'hiver. Et puis, c'est l'occasion de dire que voilà, ça fait toujours un an de plus. Donc, c'est la 11e soirée, mais c'est c'est un anniversaire à chaque fois. Après, c'est un anniversaire qu'on fête de cette manière-là, quoi.
Et donc, c'est une soirée circuit court qui est dédiée que à des formats courts-métrages.
Oui, c'est ça. Dès le début, en fait, l'idée, c'était de proposer de montrer des courts-métrages parce qu'on savait qu'il y a des gens qui faisaient des cours, qui les faisaient chez eux, qui les gardaient pour eux. Enfin, c'était surtout des jeunes à l'époque. Donc, on s'est dit, on va faire un appel à candidature. Et donc, le sous-titre de la soirée, c'est des courts-métrages faits ici par des gens d'ici. Donc, il y avait l'idée du jeu de mots de circuit court quand on travaille en circuit court. C'est des films qui ont été faits en Lozère, pas nécessairement par des gens qui y habitent, mais ils ont quand même fait l'effort de venir filmer les décors. Après, ça peut être aussi des filmés en intérieur. Et puis, l'autre raison, c'est aussi des gens qui habitent ici, dont certains ont fait des films ailleurs. Dans les deux cas, ça coche la bonne case. L'idée, c'est vraiment de montrer, un peu révéler les talents d'ici, montrer la Lozère à l'écran. De présenter aussi, c'est un enjeu qu'on propose qui n'est pas restrictif, mais en tout cas c'est que les gens viennent défendre et parler de ce qu'ils ont envie de ce qu'ils ont filmé.
Voilà, donc un des critères dans l'appel à films que vous aviez lancé, c'était au-delà de ce que tu as dit, donc soit résider en Lozère, soit avoir tourné en Lozère, c'était de pouvoir être présent le jour J pour venir présenter le film au public.
Oui, parce que en fait c'est pas dès le début, l'idée, c'était à la fois, il y avait la notion d'assumer ce qu'on a fait, parce que d'avoir fait un film entre potes, de le montrer à ses copains et de dire je vous l'envoie, c'est pas la même chose de dire je vais le montrer à du public. Donc il y a des gens qui vont peut-être dire moi j'ai pas envie de le montrer, j'estime que c'est pas à la hauteur, etc. Mais inversement, il y avait aussi et on a eu plein de fois des gens qui ont fait des films qui sont d'ailleurs la plupart du temps sont assez bancals, c'est pas le problème, mais qui se disent je vais le confronter devant un public. C'est un exercice de parler aussi devant une salle pleine ou pas. Mais nous, l'idée, c'est de montrer aussi les gens qui font des films. Et donc, si on ne voit pas la personne, si on ne sait pas qui l'a fait, ça apporte beaucoup moins d'intérêt. Après, si le film est vraiment très intéressant, ça nous est arrivé plein de fois de montrer des films où personne ne venait le présenter. Mais le public, il reste un petit peu embêté parce qu'il ne sait pas à qui s'adresser, qui l'a fait, dans quel contexte, etc. Donc, on privilégie vraiment ça dans les choix de programmation. Après, si vous avez fait un film et puis vous n'êtes pas disponible ce soir-là, on peut essayer de faire en sorte de le montrer. Il faut qu'on en discute ensemble.
Et donc là, les films dont tu parles, ça semble essentiellement des films autoproduits, on pourrait dire, donc faits sans accompagnement par des productions, sans trop de budget. Mais pourtant, le court-métrage, ça peut aussi être très produit, très soutenu financièrement.
Oui, le point de départ de cette soirée, c'est d'avoir une place pour des gens qui n'ont pas la possibilité de montrer leurs films dans des cinémas. Par contre, on a tout ce qui est film amateur mais aussi semi-pro, et on a déjà eu des films professionnels. On a déjà montré des extraits de longs-métrages qui étaient présentés en avant-première. On a eu des films professionnels de boîtes de production de Montpellier, mais très souvent, pour les courts-métrages pro, on va s'arrêter sur des espèces de Piémont, Cévenol. Enfin, on est vraiment à la limite. C'est un peu comme s'il y avait une espèce de barrière autour de la Lozère et qu'on avait du mal parce que, tout simplement, pour des coûts de production, quand on est une boîte à Montpellier, d'aller filmer au cœur de la Lozère, ben, c'est comme pour un long métrage. Ça coûte cher en déplacement, en équipe et tout ça. Donc, c'est plutôt des films qui sont tournés un peu sur les Piémont, Cévenol qu'on avait déjà reçus. Après, il y en a hein, déjà, qui ont déjà été réalisés sur le Cosméjean et tout ça, mais qu'on a déjà montré. Donc, il n'y en a pas non plus. Un panier plein. Donc, comme on disait tout à l'heure, ça fait 11 ans qu'on fait cette soirée, donc on a déjà montré ces films-là. Par contre, si cette année ou l'année d'avant, il y a eu un court-métrage professionnel qui a été tourné dans les Cévennes, sur le Mont-Lozère ou je ne sais où, évidemment, on sera en mesure de pouvoir le montrer. Mais très souvent, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, les personnes ne sont pas disponibles, ou alors ça demande des coûts, parce que ces personnes-là sont à Paris, ou je ne sais pas quoi. Et donc, nous, on ne rentre pas là-dedans. C'est une soirée de soutien, c'est une soirée anniversaire. Donc, il faut que les gens viennent avec l'envie d'être présents et pas de se dire bah, « si je suis invité, vous me payez l'hôtel, etc. » Non, ça ne marche pas. C'est pas le concept. Donc, ça nous est arrivé aussi d'éliminer des films qui étaient très bien, qui étaient professionnels, mais qui n'avaient pas de sens de montrer parce que on n'avait personne pour l'accompagner. Et puis, c'est pas la place. Il y a des festivals pour ça. Il y a des endroits beaucoup plus mieux placés. Nous, l'idée, c'est vraiment de donner la parole à des gens qui n'ont pas l'habitude de montrer leurs films devant un grand écran.
L'appel à films, il est d'ailleurs encore en cours. On peut continuer d'envoyer les films jusqu'à quelle date ?
J'ai envie de dire jusqu'à la veille. Idéalement, c'est jusqu'au lundi 16. Je ne sais plus quelle date exactement on avait mis, là, ou peut-être le 18. Disons qu'il faut quand même qu'on agence les choses, qu'on fasse une playlist, un montage dans quel ordre on monte les films. Donc si le matin même on nous sort un film qui est super, qui dure 20 minutes, ça va, on va dire casser toute notre playlist, mais en tout cas la projection est le vendredi 20. Si le jeudi matin on reçoit des films, on sera encore en mesure de le... C'est pas un concours non plus, donc c'est un peu pas à la tête du client, mais on va dire à la disponibilité qu'on a pour rajouter les films.
Et donc, les formats qui sont acceptés, c'est très large, fiction, documentaire, clip musical, animation et vidéo expérimentale.
C'est ça, il n'y a pas de durée. On privilégie quand même des durées un peu plus courtes pour une question d'équilibre aussi. Quand je dis plus court, un peu moins de 20 minutes. Ça peut être 3 minutes, ça peut être 5, 10, ce n'est pas le problème. Mais des courts-métrages qui durent 25, 30, 35 minutes, ça, le problème, c'est que c'est une soirée qui est assez dynamique, où chacun vient présenter pendant 2 minutes son film. D'avoir un film de 30, 35 minutes au milieu, on l'a déjà fait, puis ça plombe un petit peu l'ambiance.
Il y a combien de films pour l'instant qui ont été réceptionnés ?
Pas énormément, parce que souvent ça arrive à la dernière minute, je dirais 6 ou 7. C'est une soirée aussi où on montre les films d'atelier qu'on a fait avec la Nouvelle Dimension. Donc généralement, on a une douzaine, une quinzaine de films dans la soirée. Mais il y a eu des années où on avait 3 parties, de 18h, 21h et 23h. Donc parce qu'on avait beaucoup de films, on ratissait beaucoup plus large. Mais il y avait aussi beaucoup d'initiatives de gens qui faisaient des films pour cette soirée-là. Là, on va quand même en avoir un qui est en train de m'être monté pour cette soirée. Mais souvent, c'est des films les gens qui font des films n'en font pas nécessairement tous les ans. Donc, y a beaucoup de gens qui sont déjà passés plusieurs fois et qui n'ont pas forcément des nouveaux films. Donc là, on espère avoir, je dirais une douzaine de films. Et puis après, c'est une soirée qui durera 1h30, 2h selon le programme qu'on a.
Donc pour dérouler un peu le programme, ça commence, oui d'ailleurs, il y a aussi un autre événement en fait qui est associé à cette soirée, c'est votre Assemblée Générale de la Nouvelle Dimension. Est-ce qu'on en parle ou...
Bien sûr, on peut en parler. Cette année, en plus, on devrait faire l'Assemblée Générale dans la salle de projection dans le théâtre de la Jeunette Verte. Parce que l'an dernier, on était dans le bâtiment, mais dans une pièce qui était beaucoup trop petite. Donc, on ne sait jamais qui vient à une Assemblée Générale. On est toujours en demande de main-d'œuvre, même si ce n'est pas la priorité d'une Assemblée Générale. Le conseil d'administration reste ouvert avec largement de la place, mais aussi en bénévolat et toute forme. L'idée, c'est aussi de présenter un peu toutes les actions qu'on a faites dans l'année, etc. Bon, c'est une assemblée générale assez classique, comme c'est notre date anniversaire et puis qu'on est déjà sur cette soirée-là, c'est aussi simple de faire d'une pierre deux coups. Et ça fait 3 ans maintenant que l'Assemblée Générale est calée le même soir et dans le même lieu, ce qui permet aussi aux gens qui veulent venir un peu plus tôt de découvrir un petit peu plus l'association, ce qu'on a fait cette année. Et puis ensuite, on fait un petit verre de l'amitié. Et puis après, on enchaîne avec la soirée de projection qui, elle, est ouverte, gratuite, à participation libre. C'est une soirée de soutien. Donc, si les gens veulent donner, il y a une buvette. Si les gens veulent donner, ça permet de soutenir un petit peu l'association. Mais l'idée, c'est que tout le monde puisse venir voir les films.
Merci beaucoup pour tous ces détails. Et avant de se quitter, là, on sort du Festival de Clermont-Ferrand, qui est le plus gros festival de courts-métrages de France. Et il y a eu un engouement hyper fort. Je crois qu'il y a eu vraiment un chiffre record. Il y a eu 173 000 entrées. Et on a même noté une hausse de 20% des recherches sur la plateforme d'hébergement Airbnb sur Clermont-Ferrand pendant la période. Donc c'est un format, le court, qui est de plus en plus prisé par les spectateurs. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans le court-métrage? Et pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'en voir, comment est-ce que tu pourrais donner envie aux gens de s'intéresser à ce format-là, qui est de plus en plus prisé, mais pas encore non plus totalement connu par tout le monde?
Moi, ce qui me plaît, c'est pas un format sur lequel je suis allé au début. Je suis quand même clairement plutôt long métrage, mais on a toujours laissé une place au court métrage, que ce soit dans les activités de la Nouvelle Dimension, mais aussi dans le festival Vue du Québec, où on a une compétition de court métrage depuis 8 ans. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de voir les talents de demain. C'est-à-dire que quand on va montrer un court métrage, on se dit peut-être que cette personne, elle va en faire d'autres, mais c'est pas juste une activité du week-end pour s'occuper comme du bricolage. Dedans, il y a aussi des gens qui ont vraiment envie de faire du cinéma, et 90% du temps, on commence par le court-métrage. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, on le voit moins clairement, mais plus au festival Off-Court à Trouville, qui est un festival qui a aussi une trentaine d'années, qui est bien implanté, qui ont un programme qui s'appelle du court au long. Et ce qui est intéressant, c'est que les spectatrices et spectateurs de ce festival-là, plusieurs années plus tard, vont rencontrer des cinéastes après leur troisième, quatrième court, mais aussi pour leur premier ou deuxième long métrage. Et donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment une plateforme de lancement. C'est un bel exercice pour des personnes qui sont les cinéastes de demain. Donc, en tant que spectateur, moi, ce qui m'intéresse, c'est de repérer un petit peu ce qui puisse se faire. Après, c'est vrai que le Festival de Clermont-Ferrand, on y était essentiellement pour la partie cinéma québécois vis-à-vis du festival. Mais rien que pour cette partie-là, je vois des cinéastes qui sont même passés à Florac, qui ont été primés à Florac, qui continuent de faire du court-métrage, et on attend évidemment les longs-métrages. Donc, c'est vraiment ce passage-là, moi, qui m'intéresse. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à faire une histoire qui tient vraiment la route, parfois en 3, 5, 10 minutes, et qui est aussi intéressante et profonde qu'un long métrage.
Merci beaucoup, Guillaume, et donc rendez-vous le vendredi 20 février.
Tout à fait, merci beaucoup.
Ella se ve bonita, aunque a veces le vaya mal. En los ojos una sonrisa, aguantándose llorar. La espuma de sus orillas parecieran de champán. Son alcohol para las heridas, para la tristeza bailar. Son alcohol para las heridas, porque hay mucho que sanar. En el verde monte adentro no se puede respirar. Las nubes están más cerca, con Dios se puede hablar. Se oye el jíbaro llorando, otro más que se marchó. No quería irse por Lando, pero el corrupto lo echó. Y no se sabe hasta cuándo. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelten la bandera ni olviden la Lolay. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawaii. quiso irse y quien se fue sueña con volver. Si algún día me tocara, que mucho me va a doler. Otra jíbara luchando, una que no se dejó. No quería irse tampoco y en la isla se quedó. Y no sé, sabe hasta cuándo. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren al barrio mío y que tus hijos se vayan. No, no suelten la bandera ni olvides el lolay. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. No, no suelten la bandera ni olvides el lolay.
Vous êtes bien à l'écoute de Radio Bartas. On écoutait à l'instant le titre « Lo que le paso a Hawái » de la superstar mondiale la plus écoutée, la plus commentée, la plus suivie du moment sur notre planète, Bad Bunny. L'artiste portoricain avait déjà battu tous les records en 2025, celui du musicien le plus streamé au monde devant Taylor Swift et The Weeknd. Et son dernier album, « Debí tirar más fotos », dont est extrait le titre qu'on vient d'entendre, est aussi l'album le plus écouté en 2025. Et sa performance dimanche dernier à la mi-temps du Super Bowl, la finale de la Ligue nationale de football américain, aurait été suivie par 135,4 millions de téléspectateurs. Et c'est sans compter bien sûr tous les extraits vidéo de son show qui inondent les réseaux sociaux et les médias du monde entier. Mais au-delà de ces chiffres, ce sont la personnalité, les prises de position et le sens des paroles des morceaux de Bad Bunny sur lesquels il faut prendre le temps de s'arrêter. Il est devenu une figure très médiatique de l'opposition au trumpisme et un fervent défenseur de la communauté latino menacée aux États-Unis par un racisme d'État dramatiquement décomplexé et par la police de l'immigration, l'ICE, qui mène une véritable chasse aux immigrés meurtrières. Au Grammy Awards, où Bad Bunny a obtenu le prix du meilleur album, première fois d'ailleurs, il faut le noter que dans l'histoire des Grammy, le meilleur album de l'année récompensé est entièrement en espagnol, Bad Bunny a tenu des discours très politiques et sa performance du Super Bowl était une célébration de la culture latino et de la culture portoricaine, car il se place aussi comme un défenseur de son île natale, Porto Rico donc. Et dans cette chanson qu'on vient d'entendre, par exemple, « Lo que le paso a Hawái », il s'élève contre la gentrification du pays et célèbre un Porto Rico vivant au-delà des clichés touristiques. Et il redoute que ne se passe à Porto Rico ce qu'il s'est passé à Hawái, Lo que le paso a Hawái, où la colonisation américaine a détruit la culture locale, où les natifs ont été déplacés au profit de la construction de logements pour les Américains et les touristes. Voilà, donc la notoriété de Bad Bunny lui sert de caisse de résonance planétaire, sa musique est comme un manifeste politique et social, il fait enrager la sphère MAGA. Et en plus, il nous fait danser. Merci beaucoup, Bad Bunny.
Midi et des poussières.
Autre événement qui attirera peut-être une foule légèrement moins dense qu'un concert de Bad Bunny au Super Bowl, c'est la grande dictée de Balsièges. Organisée par le comité des fêtes de Balsièges et la médiathèque de Balsièges, cet exercice qui vise à la fois à mettre à l'honneur l'histoire de l'école rurale et le goût de la langue française aura lieu ce dimanche 15 février à 15h30. Et c'est Élodie Girard, responsable de la médiathèque de Balsièges, qui en est à l'initiative. J'ai échangé hier avec elle par téléphone. Bonjour Élodie Girard.
Bonjour.
Alors c'est vous qui êtes à l'initiative de cette grande dictée organisée à Balsièges.
Oui, alors moi et plusieurs autres, hein, puisque c'est un événement qu'on fait en collaboration avec le foyer rural de Langlade-Brenoux et puis également avec le comité des fêtes de Balsièges. En fait, tout est parti du fait que la médiathèque communale de Balsièges existe depuis un an, tout rond. Et donc on souffle notre première bougie. Et parmi les bénévoles qui sont là à la médiathèque avec moi, il y a Christine qui est également très active au foyer rural Et au foyer rural, ils ont fait un travail de mémoire autour de l'école de Grenoux. Et il y a parmi eux un monsieur qui s'appelle Michel Saroui, qui va être celui qui va officier pour cette grande dictée, qui est un ancien instituteur à la retraite et qui avait déjà fait auparavant d'autres dictées. Et on s'est dit que ce serait super d'en organiser une à Balsièges, parce que la bibliothèque occupe actuellement les locaux de l'ancienne école du Lion. Donc les gens qui passent au carrefour de Balsièges doivent voir cette grande fresque murale quand on est sur le carrefour. C'est là où il y avait l'ancienne école, nous on occupe une salle de classe et puis l'ancienne cantine. Et l'école, elle, a déménagé l'école du Lion au Luxembourg. Donc on se fait un petit peu passeur de mémoire maintenant qu'on occupe ces locaux. Et on s'est dit que ce serait une bonne idée de faire ça. Voilà.
La dictée, c'est un peu dans l'ADN de l'apprentissage du français à l'école. C'est un peu le passage obligé. Et, qu'est-ce qui vous intéresse, vous ? En quoi est-ce que c'est intéressant de continuer de poursuivre, d'en proposer, même au-delà de l'école ?
Bah, au-delà de l'école, on est une bibliothèque. Donc nous, déjà, on aime les mots, on aime l'écriture, on aime le fait de voir des enfants passer les portes de la bibliothèque. Au début, on essaie de les attirer avec des animations, des BD, et puis après, on les invite à lire un peu plus. Donc quand on aime les mots, forcément on aime l'écriture, on n'aime pas les fautes d'orthographe. Donc du coup voilà, la dictée c'était un peu une suite logique, quoi. Voilà, et puis c'est un moment un peu ludique, hein. On fait ça, il y aura pas des notes, il y aura juste un amour des mots et des mots des fois qu'on connaît pas, parce qu'elle sera pas si facile, cette dictée. Je l'ai lue, Michel nous a fait une dictée autour de la légende du lion de Balsièges. Et il y a quelques mots un petit peu compliqués, ça va être rigolo.
Et j'ai lu qu'il y avait deux dictées, il y en a une pour les plus jeunes, une pour les enfants et une pour les adultes.
Oui, c'est ça, parce que moi j'ai vu le niveau de la dictée, je dirais à partir de 12 ans, on peut peut-être essayer de la tenter, la dictée, côté adulte. Et puis après les plus jeunes, on les prendra, on leur fera faire un petit texte un peu plus simple. Et puis aussi pour les occuper, l'idée ce serait aussi de faire des petites lignes d'écriture pour les plus jeunes, ou pourquoi pas leur apprendre à faire un petit atelier origami pour apprendre à faire des bonnets d'âne en papier journal.
Et j'ai reçu jeudi dernier dans cette émission Evelyne Perrichon, qui est la coprésidente de la Fédération des foyers ruraux de Lozère. Elle était venue pour annoncer le festival Contes et rencontres qui va débuter le 14 février. Et on a discuté ensemble du rôle du conteur dans la transmission d'un conte et l'importance de la personne qui va conter. Je me demandais, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le rôle du dicteur dans la transmission d'une dictée ? Parce que vous avez cité donc Michel Saroui qui va être le dicteur. Est-ce qu'on peut être un bon dicteur, un mauvais dicteur ? Qu'est-ce qu'il faut respecter comme critère ?
Il faut être patient, répéter la dictée une fois, deux fois. C'est pas exactement le même travail que quand on compte. Et pour autant, pour faire le texte de cette dictée, on s'est un petit peu inspiré du travail des contes de Roger Lagrave, qui a un peu épluché tous les contes et les légendes de Lozère. Donc oui, il y a toujours un petit parallèle, mais c'est pas exactement le même travail.
Non, bien sûr, c'est aussi déjà c'est moins long. On espère une dictée qu'un conte, parce que sinon.
J'espère aussi pour les gens qui vont écrire et rédiger, oui.
Et donc vous le disiez un petit peu tout à l'heure déjà, au-delà de l'exercice de la dictée que vous proposez, l'idée de cet événement, c'est aussi de valoriser donc le patrimoine local en mettant à l'honneur l'histoire de l'école rurale et donc de cette fameuse école du Lion. Et la dictée, elle sera donc vraiment dans l'ambiance des classes d'antan, c'est ça ?
Ah mais complètement. Alors déjà la médiathèque a préparé une petite sélection bibliographique avec une vingtaine d'ouvrages sur l'école d'autrefois. Et puis avec le comité des fêtes, on a été farfouillé dans le grenier de la mairie, hein, puisqu'on est également dans les mêmes locaux avec la mairie. La dictée se fait à la salle polyvalente et au-dessus il y a des greniers. Et on y a retrouvé les anciennes cartes de l'école, donc des cartes de géographie, des cartes d'histoire, des cartes de sciences. Donc ça, on les a ressorties, on les dépoussière, on va les accrocher au mur pour que les gens puissent les voir. On a également récupéré de vieux pupitres en bois. Et puis on a fait on a demandé aux habitants, aux locaux, à nos lecteurs, s'ils avaient, parce qu'il y en a certains qui étaient à l'école à l'époque, à Balsièges aussi, ou dans les hameaux alentours, on leur a demandé s'ils avaient des objets qu'ils auraient conservés. Donc on a récupéré des encriers, des pluniers, des vieux buvards, même des bons points. Qu'est-ce qu'on a récupéré encore d'autre ? Voilà, plein de choses qui vont nous rappeler à l'époque. On a même été chiner une blouse grise pour notre institut. traducteur pour qu'ils puissent dicter comme à l'époque.
Comme à l'époque, et du coup, ça permet aussi une...
Sans la règle en fer, hein, je précise.
Comment
Sans la règle en fer, on va pas taper les enfants qui font pas
ça. Oui, ça, c'est plus trop possible aujourd'hui, bien heureusement. Et voilà, donc c'est aussi l'idée de transmettre aux jeunes générations aussi, de leur raconter comment c'était avant, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, les enfants qui connaissent pas du tout ces vieux objets.
Ouais, exactement. Donc on va leur montrer ces vieux objets. On a des tampons encreurs aussi. Enfin, il y a des choses assez chouettes qu'on a récupérées. Donc c'est pas vraiment une exposition, mais on mettra tout ça à la vue de tout le monde pour que on puisse tous échanger autour de ces objets. On a récupéré également d'anciennes photos de classe et qu'on a scanné et numérisé. Alors il y a les photos de classe, on espère que les gens vont se reconnaître entre voisins, des gens qui ont été en classe ensemble. Et puis il y en a certaines qu'on a numérisées. Et on a fait un petit travail avec l'intelligence artificielle, qui est un peu décriée, mais qui au moins permet de faire de belles choses. Donc qui peut aussi réanimer certaines photos de classe. Donc on a fait une petite vidéo aussi qui tournera ce jour-là dans la salle polyvalente.
Et est-ce que vous avez un souvenir de dictée qui vous a marqué, soit la plus difficile ou la plus belle que vous ayez entendue, la plus mémorable, soit de votre enfance ou même de votre vie d'adulte?
Elle remonte très très loin de mon enfance. Mais j'avais dans mes souvenirs de dictée, moi c'est je suis gauchère, alors j'ai une petite pensée pour tous les gauchers qui ont vécu à mon époque, hein, au moins et qui travaillaient avec des plumes, et donc nous on bavait tout le temps, on était obligé de tourner nos feuilles pour pas baver sur ce qu'on venait d'écrire, les droitiers étaient un peu plus avantagés que nous sur les dictées, donc une petite pensée pour tous les gauchers qui ont fait des dictées.
Une petite pensée pour tous les gauchers. On les salue bien, les gauchers, les gauchères qui écoutent Radio Bartas. Merci beaucoup, Élodie Giral. Donc, on rappelle que la grande dictée de Balsièges aura lieu à la salle polyvalente de la mairie de Balsièges ce dimanche 15 février à 15h30. L'entrée est libre, mais il faut quand même s'inscrire pour être sûr d'avoir une place.
Voilà, c'est mieux de s'inscrire. Et puis, on rappelle aussi que c'est gratuit et qu'il y aura une petite buvette tenue par le comité des fêtes de Balsièges.
Et pour s'inscrire, donc, c'est soit par téléphone auprès de vous au 06 49 14 06 01, soit par mail à cfdbalsièges@gmail.com.
Vous avez tout bon.
Merci beaucoup, Élodie. À bientôt.
Je vous en prie. Souhaitez une bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
Midi. Et des poussières.
Midi et des poussières. Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Et comme tous les mardis, c'est désormais l'heure de la traditionnelle minute de masque. La minute de masque. Un morceau de musique raconté par Max en une minute, enfin un peu plus.
C'est étonnant, non ?
Et salut Max.
Eh bien salut.
C'est l'heure de ta chronique.
Eh oui, apparemment.
bienvenue à toi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux nous faire écouter ?
Alors, un petit morceau de François Béranger, qui je pense est un chanteur un peu méconnu, malgré quelques trésors dans sa carrière, assez longue d'ailleurs. Bon, ça date un peu aussi, mais... Et voilà, je voulais parler de lui parce que je trouve qu'effectivement, il a des très bons textes. Moi, je l'ai connu quand j'étais plus jeune au lycée, par rapport à certains textes assez politiques à l'époque. Mais il a aussi des chansons de vie et surtout une tendance à faire aussi un peu de rock'n'roll, qui est toujours assez sympathique dans la vie. Donc voilà.
Et tu l'as déjà vu en concert ?
Oui. Mais c'est pareil, ça date, c'était dans les années 80. Et la dernière fois que je l'ai vu, il a fini sa vie et il tenait un petit restaurant dans le Gard, paumé dans les Cévennes. Et on était une petite bande de Florac et on était descendu manger chez eux.
C'était dans quel bled ?
Ou alors là, je me souviens plus. Là.
Mais dans les Cévennes, ouais. Ok. Et ben alors, on va écouter ce morceau. Tu nous as pas donné le titre.
Tranche de vie.
Tranche de vie.
Je suis né dans un petit village qu'un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocages. c'est le village de Saint-Martin. Après de ses 5 ans qu'on m'emmène, avec ma mère et mes frangins, mon père pense qu'il y aura du turbin dans la ville au col de la Seine. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. La capitale c'est bien joli, sûrement quand on la voit de Passy, mais de Nanterre ou de Charenton, c'est déjà beaucoup moins folichon. J'ai pas de mal à imaginer par où ce que mon père est passé, car j'ai connu 10 ans plus tard le même tracas, le même bazar. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en vrai d'être né. Matin, faut aller piétiner devant les clichés de la main-d'œuvre. L'après-midi, solliciter le bon cœur des punaises, des bonnes œuvres. Ma mère, elle était toute paumée, sans ses lapins, les écouver. Et puis pour voir, essayer donc, sans fric de remplir 5 lardons. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Éducation, il y a la communale en béton, là on fait de la pédagogie devant 60 mômes en furie, en fait l'alphabet du calcul. J'ai pris beaucoup de pieds au cul et sans qu'on me le demande, j'ai appris l'arabe et le portugais. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en vrai d'être né. À 15 ans, fini la belle vie, t'es plus un monde, t'es plus un petit. Je me retrouve les deux mains dans le pétrole, à frotter des pièces de bagnole. 9-10 heures dans un atelier, ça vous épanouit la jeunesse, ça vous arrange même la santé. Pour le monde, on a de la tendresse. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en vrai d'être né.
Merci d'être resté malgré tout. Faut pas fumer. Résumé du chapitre précédent. Le héros travaille à l'usine. Ça l'emmerde. Deuxième et dernière partie. Quand on en a un peu là-dedans, on n'y reste pas bien longtemps. On s'arrange tout naturellement pour faire des trucs moins fatigants. Je me faufile dans une méchante bande qui voyoute la nuit sur la lande. J'apprends des chansons de bruant en faisant des croche-pattes aux agents. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. La maison Poulaga, ma grippe à mon premier faux pas, ça tombe bien, mon pote à la veine, faut du monde pour le FLN. Je me farcis 3 ans de classe, qui boresque à Bilibidija, y'a de quoi prendre toute l'Afrique en grippe, mais faut servir le pays ou pas. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'été. Ils ne connaissent pas l'histoire et la géographie, soit qu'ils ne l'ont pas appris, soit qu'ils l'ont oublié, soit qu'ils s'en foutent, ou qu'ils sont trop jeunes ou trop vieux, je ne sais pas. Je voudrais dire que Aurès, Kabylie, Mitidja, dont je viens de parler dans la chanson, c'est le nom de 3 régions d'Afrique du Nord, et plus précisément de l'Algérie, où l'armée française a livré de glorieux combats pendant la guerre d'Algérie, à laquelle j'ai participé, hélas. Je m'en excuse vivement. À la fin de la guerre d'Algérie, on s'est aperçu que il y avait eu 30 000 victimes du côté des forces de l'ordre et des Français de souche européenne, comme on disait, c'était l'appellation officielle, et plus d'un million de victimes, officiellement, du côté des Français de souche nord-africaine, comme on disait aussi, c'était l'appellation officielle. Et on n'a jamais pu expliquer le pourquoi de la différence. Vive la guerre ! Quand on me relâche, je suis vidé. Je suis comme un petit sac en papier. Y a plus rien dedans, tout est cassé. J'ai même plus envie d'une mémé. Quand j'ai cru que j'allais me réveiller, les flics m'ont vachement tabassé. Faut dire que je m'étais amusé. Alors balancer les pavés, j'en suis encore à me demander. Après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout? À quoi ça sert, on doit être né? Ils la rendent avec intérêt, le crâne, le ventre et les roustons. Enfin quoi vive la nation. Le juge m'a filé 3 ans de caisse, rapport à mes antécédents. Moi je peux pas dire que je suis en liesse, mais enfin qu'est-ce que c'est que 3 ans? J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout? À quoi ça sert en bref d'être né? Tantôt je vais pouvoir m'épanouir dans une société structurée. Je ferai des chansons et des ballets et je pourrai me remettre à lire. Je suis né dans un petit village qui a un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocages. C'est le village de Saint-Martin. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout? À quoi ça sert en bref d'être né?
Sacré morceau.
Ah oui, c'est pas mal. Hein. C'est, en plus, c'est historique, culturel, enfin, y a un peu de tout. Ouais.
Et donc, c'est live, hein, comme vous pouvez l'entendre, chers auditeurs, chères auditrices. Et c'est vrai qu'elle est super bien, cette version live, notamment avec cette incursion là, qu'il fait après le couplet sur l'Algérie.
Oui, oui. Mais c'est un excellent album. Après, j'aime bien ses interventions aussi. Notamment, il présente ses musiciens au tout début du concert. En disant, je vous les nomme maintenant, comme ça vous pourrez mettre des noms sur les erreurs.
Et donc l'album, il s'appelle Tranche de vie comme le morceau. Et j'ai vérifié là pendant qu'on écoutait, il est sorti en 1970. Et voilà, ouais, lui, c'est, donc c'est, là ce titre, il est inspiré de sa vie. Enfin, il le dit.
Ouais, c'est
il
personnel. Fait, ouais.
Parce qu'il a travaillé aussi dans les usines Renault en revenant de la guerre d'Algérie.
Oui, enfin, il a un peu tout fait. Enfin, oui, il est parti un peu du bas, comme on disait à l'époque. Mais c'est, voilà, il a d'excédents, plein de morceaux un peu sur social, le monde social de l'époque, voilà, l'histoire qu'il a vécue. Et...
Chanteur contestataire, comme on dit.
Ouais. Ah, c'est oui, il était pas, il passait pas beaucoup à la télé, comme on dit. Non.
Et en effet, il est mort à Sauve dans le Gard, donc c'était par là que tu étais allé manger dans son resto.
Voilà, tout à fait.
Et donc, vous étiez une petite bande de fans de Florac et vous avez...
Enfin, on était là, on était descendus. On était surtout 2 vieux fans de lui et on était descendus. On était 10 à descendre manger. Et on avait passé une très bonne soirée.
Il vous avait bien reçu.
Ah, excellemment, oui.
Eh bien, merci beaucoup pour cette découverte, encore une fois, Max.
Mais avec plaisir.
Et à la prochaine, pour ta
avec
prochaine minute.
Avec plaisir aussi, merci à toi.
Est-ce qu'il y a une dédicace aujourd'hui à faire
passer? Ah non, pas tous les jours quand même, sinon après ça va faire trop.
Et nous, on n'a reçu aucune sollicitation hein, pour le petit concours que tu as lancé de deviner sur le jingle.
Soit ils n'écoutent pas, soit ils n'ont pas trouvé. Alors.
Ouais, bah on va leur remettre une fois pour qu'ils entendent bien. À la semaine prochaine, Max.
Ciao.
Ciao. La Minute de Masque. Un morceau de musique raconté par Max en 1 minute, enfin un peu plus.
C'est étonnant, non ?
Et oui, voilà, on vous rappelle donc que Max offre un verre au volet rouge à celui ou celle qui trouvera d'où est issue la petite phrase « C'est étonnant, non ?» qu'on entend sur le générique de sa chronique. Donc si vous avez une idée, contactez-nous à contact@radiobartas.net ou alors vous pouvez aussi passer le voir directement au volet. Et autre petite précision, l'album Tranche de vie, il est bien sorti en 1970, mais le live qu'on a entendu, c'était un concert qui lui a été enregistré en 1977. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se retrouve demain à midi et des poussières, précisément pour un nouvel épisode.
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.